Azul Azul, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis dealeuse de peps pour nanas épuisées et grâce à mon expertise d'infirmière, de coach en résilience et ma passion pour la trichothérapie, je t'aide à déculpabiliser, à sortir de ton isolement, à retrouver la confiance en toi et reprendre goût à la vie. Alors chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, harcèlement, mal-être, mais aussi résilience, espoir, épanouissement et bien évidemment reconversion. Alors, si tu ne sais pas par où commencer, je te propose une semaine de coaching. Donc, tu trouveras chaque jour une vidéo accompagnée d'un audio et d'un exercice à mettre en pratique, plus l'espace Telegram pour en parler. Voilà, ça te permettra vraiment d'y voir un peu plus clair et de commencer à te mettre en action, à mettre des choses en place. Donc, c'est un coaching complètement offert. Tu trouveras le lien dans le descriptif. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Coucou Fanny, j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup d'avoir accepté d'intervenir dans le podcast Le Café des Burnies. Pour moi, ça va être une première et même pour mes auditrices, ça va être une première. Nous allons parler de couple, d'amour, de relations romantiques et amoureuses dans le cadre d'un épuisement. Donc franchement, perso, voilà, j'ai trop hâte. Et je suis bien contente que tu sois là pour m'accompagner dans cette conversation parce que c'est pas forcément ma zone de génie. Donc, on va commencer par les présentations. Déjà, comment tu vas? Et après, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours?
Bonjour Sarah. Déjà, je vais très bien et je suis vraiment ravie d'être ici. Merci pour ton invitation. J'ai hâte qu'on développe ce sujet. Donc, je m'appelle Fanny Gipa. Je suis la créatrice de la méthode Change ton schéma amoureux. Et pourquoi j'en suis venue à accompagner les personnes dans leur schéma amoureux, dans leur vie de couple, dans le célibat? C'est parce que, tu sais, quand j'avais déjà la vingtaine, je regardais les couples autour de moi, puis je me disais, mais c'est pas possible, il n'y a aucun couple qui a l'air heureux. Soit ils divorcent, soit ils se critiquent, soit ils se trompent. Et tu sais, je me disais, mais l'amour, le couple, ça devrait être une des bases de notre vie, une base où on se sent bien, où on se sent épanoui. Et je retrouvais ça à peu près nulle part. Et forcément, dans ma vie amoureuse non plus, hein, 27 ans, je me suis retrouvée dans une relation toxique. Que j'ai quitté, mais après seulement 3 ans, ça m'a mis quand même 3 ans pour comprendre que c'était déjà toxique, que c'était pas normal ce que je vivais, puis que je vivais exactement ce que j'avais essayé d'éviter depuis mes 20 ans, voire avant. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment, je dirais, investiguer sur comment faire pour vivre une relation amoureuse épanouie. Qui va se magnifier avec le temps. Tu sais pas qui va se péjorer et se terminer un jour ou l'autre. Donc j'ai commencé à faire des recherches et finalement plus je faisais des recherches et pire mon schéma devenait, dans le sens où je suis restée célibataire presque 8 ans. Les relations étaient éphémères, tu sais, j'avais des hommes qui flashaient sur moi mais moi je flashais pas sur eux, vice versa. Ça durait une semaine, parfois 6 mois. J'ai eu des belles relations mais c'était jamais quelque chose de complètement épanoui. Jusqu'au jour où j'ai fait un bilan, un vrai bilan de ma vie amoureuse, parce que j'en ai eu marre, j'ai dit non mais c'est pas possible, là j'avance pas quoi, ça faisait 8 ans depuis que j'avais quitté cette relation toxique, et il y a quelque chose qui cloche, je me sens de plus en plus épanouie, tu sais, je m'étais réinventée, j'avais quitté mon job, j'étais partie vivre à l'étranger, et l'amour ça cliquait toujours pas, ça changeait toujours pas, et en fait j'ai réalisé que j'avais pas changé mon schéma de base amoureux, ça veut dire que même si les relations elles étaient différentes, c'était toujours pas ce que je voulais. Il n'y avait toujours pas l'engagement de ma part et de leur part et l'épanouissement que je voulais. Donc j'ai réalisé à un moment donné que toutes ces relations elles avaient été complètement un miroir de ce qui se passe en moi et que je devais simplement me synchroniser à ce que je voulais vivre. Et c'est comme ça que j'ai créé ma méthode et que j'ai trouvé mon mari quasiment le jour même où j'ai fait le bilan. C'était, tu vois, assez fou, hein, quand tu, entre guillemets, galères pendant des années et tout à coup, pif, il y a tout qui se met en place. C'est magnifique. Et puis, depuis, j'accompagne les femmes à faire la même chose, à vivre des belles relations.
Ah, c'est super. C'est, du coup, ça fait une belle histoire à raconter qui se termine bien finalement, un happy ending. plutôt, oui, tu vois, parce qu'on a tendance à dire que ça n'existe pas, mais si, ça existe et donc c'est rassurant quelque part.
Et pour avoir donc vécu une relation toxique, déjà, comment t'as su qu'elle était toxique? Et du coup, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous définir un schéma toxique?
Alors, à l'époque, c'était quand même relativement évident, mais quand on est dedans, on le voit pas. Mais j'avais la boule au ventre, du moment que j'étais pas avec lui. J'avais une boule au ventre. J'étais toujours en souci, je me remettais toujours en question, j'essayais toujours de me changer, de m'adapter à lui, d'être mieux, d'être plus ceci, plus cela. Et en face, j'avais jamais de réaction. Au contraire, il s'éloignait de plus en plus. Donc, tu sais, avec les années, j'ai fini par déterminer qu'une relation toxique, c'est tout simplement une relation où tu peux pas être toi-même. Où, tu sais, t'es en permanence en train de te demander si l'autre, il va pas te quitter.
Oui.
Si tu dis ceci, si tu fais cela, si t'as pas assez de relations sexuelles, si t'es pas assez mince, si tu fais pas assez bien à manger.
Oui.
Tu vois, toutes des petites choses qui paraissent basiques, qui paraissent normales, mais qui finalement font que t'es pas sereine. T'es pas sereine, tu sais.
Donc, quelque part, un schéma toxique, c'est un comportement, c'est t'obliger à porter une sorte de masque, t'obliger à être quelqu'un d'autre et être toujours dans le surinvestissement et pas beaucoup dans le plaisir, dans l'échange, dans vivre la relation, vivre la relation tout court. Donc, en fait, toi, t'es toujours en train de l'améliorer, de vouloir l'améliorer, de vouloir la préserver, mais pas vraiment de la vivre.
Quand on dit relation toxique, on parle plutôt de violence physique.
Oui, c'est vrai.
Mais simplement avoir des disputes régulières, c'est aussi un schéma toxique, tu vois. Quand à chaque fois que vous avez une divergence dans une opinion, ou que tu as l'impression que tu dois prouver à l'autre ce que tu dis, que tu as une boule au ventre, que tu sais pas comment dire les choses, que tu te demandes comment bien dire les choses, ou tu sais que tu attends le bon moment, tout ça fait que ça devient toxique. Tu sais, je dis toujours, c'est pas normal de se disputer dans un couple. On doit pas se disputer. On doit discuter et partager, en fait, tout simplement. Donc, ça, c'est vraiment un schéma qu'on a adopté comme la norme et comme quelque chose de normal. Où, tu sais aussi, du moment que tu fais des concessions, si tu te prives d'aller à ton cours de sport parce que l'autre, il veut pas s'occuper des enfants, c'est aussi toxique. À la longue, ce sera toxique. C'est tous ces schémas où on essaye de changer l'autre, où on essaye de se changer pour être sûr, finalement, que l'autre y reste.
Mais pour revenir du coup à la personne qui nous écoute aujourd'hui et donc qui est en burn-in, en burn-out, donc qui est en épuisement et qui est vulnérable, que ce soit physiquement, émotionnellement. Moi, j'en ai pas mal. Alors, en gros, les profils que j'ai, c'est soit c'est une maman ou pas forcément une maman, mais en tout cas, elle est en couple et elle n'est pas très comprise par son partenaire, soit c'est des personnes qui ont donné tant au monde professionnel qu'aujourd'hui elles se retrouvent toutes seules à un certain âge avancé. C'est pas l'âge avancé qui est problématique, mais c'est des filles qui veulent être en couple, en fait. C'est des filles qui veulent reprendre une vie amoureuse parce que on en a besoin. Je pense que l'être humain a besoin d'être aimé. Mais voilà, elles sont très fragiles et du coup, comment elles peuvent éviter de tomber dans ce genre de schéma?
Alors, la meilleure chose à faire, c'est de faire un bilan relationnel. Pourquoi ? Parce que l'amour, on part immédiatement dans l'émotionnel.
Obligé.
Et puis, comme tu l'as dit, quand on est en burn-out ou quand on sort d'un burn-out, les émotions, elles peuvent être encore à vif. Et on dit, quand les émotions sont hautes, l'intelligence est basse. Donc, ça veut dire que c'est à ce moment-là où, entre guillemets, on va pas prendre des décisions rationnelles. Donc, ce qu'on veut, c'est faire un bilan, de se dire, qu'est-ce qui a fonctionné dans mes relations, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, et d'écrire ça noir sur blanc. Ajouter à ça, qu'est-ce que je veux vraiment vivre. Et comme ça, tu l'écris quand, à un moment donné de ta vie, t'es bien, t'es sereine, tu te sens en sécurité. Et quand la relation arrive ou quand t'es avec la personne avec qui tu es, tu reprends ce bilan, tu vois, pour vraiment comparer, qu'est-ce qui se passe maintenant concrètement dans la relation ou dans la rencontre. Et comme ça, tu peux faire un comparatif et pas laisser tes émotions prendre le dessus.
Finalement, rester toujours consciente.
Ouais.
Quand t'es en relation, garder toujours à l'esprit, c'est peut-être chouette parce que t'as, comment on appelle ça ? Ah, t'as les papillons dans le ventre ou je ne sais quoi, mais revenir quand même au cerveau, revenir à la... Oui, revenir au rationnel, comme tu dis, et encore une fois, peut-être évaluer, même si ce n'est pas forcément top hein, dans les relations amoureuses d'évaluer, mais évaluer quand même nos comportements.
Tu sais, c'est vrai, c'est juste ce que tu dis, c'est dans la vie amoureuse, on n'aime pas tellement avoir la logique oui. et évaluer. Mais en fait, c'est crucial. C'est vraiment ce que j'ai réalisé après toutes ces années. C'est si on va pas que sur l'émotionnel, c'est voué à l'échec. Parce qu'il y a plein de gens qui tombent amoureux, vraiment amoureux, mais qui finissent par se séparer.
Ah oui.
Parce qu'il n'y a pas eu de logique derrière, de réflexion, de mais est-ce que finalement, c'est pas juste passionnel et est-ce que vraiment cette personne, elle va m'aller toute une vie? Est-ce qu'on a les mêmes valeurs? Est-ce qu'on a les mêmes envies? Tu vois, l'exemple oui. le plus simple, c'est tu vas pas te mettre avec quelqu'un qui veut des enfants si toi t'en veux pas.
Oui. Et pourtant, tu peux très bien l'aimer, cette personne. Hein.
Et pourtant, tu peux très vite aimer cette personne. Mais à un moment donné, c'est de choisir est-ce que tu aimes plus cette personne ou l'idée plutôt d'être en couple?
Oui.
Ou est-ce que tu aimes plutôt l'idée de vouloir des enfants? Et tu sais aussi, après, ça s'attache à cette croyance générale que je combats de toutes mes forces, c'est que l'amour, c'est rare. Mais c'est pas vrai.
Non, pas du tout.
C'est pas vrai. C'est pas vrai. On peut aimer 10 fois dans une vie. C'est juste qu'on n'a pas les compétences pour faire la rencontre, pour faire les bonnes rencontres.
En tout cas, je pense vraiment qu'on est capable d'aimer. Et d'ailleurs, chacune qui nous écoute, elle peut se poser la question combien de fois elle a aimé dans sa vie. Et bien sûr qu'on a aimé plusieurs fois. Et cet amour-là, il a fini par partir parce qu'il n'était pas nourri par autre chose. Donc, non, aimer, c'est pas ça le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est aimer la bonne personne, celle avec qui tu peux évoluer, changer et aller jusqu'au bout, quoi. Et comme tu dis, la rencontre, c'est pas forcément dans un coin de rue. Ça pourrait l'être, il n'y a pas de problème, ok.
Oui, ça arrive aussi, mais sur un million.
Mais il y a d'autres moyens. Et peut-être ne pas juste se focaliser sur je l'aime, mais revenir à la raison et se poser la question, est-ce que c'est vraiment la bonne personne pour nous? Et d'ailleurs, j'en profite du coup, comment identifier une relation qui nous tire vers le haut, tu vois, et non vers le bas?
Bah, c'est une relation, c'est assez simple, c'est une relation qui nous donne de l'énergie, c'est une relation où on sent en sécurité. Il y a des personnes qui vont nous mettre en insécurité, directement.
Oui.
Tu sais qu'ils vont être un peu fuyants, qu'ils vont pas vraiment s'engager, qu'ils seront pas clairs. Et en fait, c'est là où ça va nous tirer vers le bas, parce que on va être dans la charge mentale, on va constamment réfléchir, on va tout le temps être sur nos gardes. Et émotionnellement, ça va être le roller coaster, des hauts, des bas.
Oui.
Et on va être tout le temps dans cette espèce d'attente. Donc, du moment que ça devient comme ça, c'est là qu'on doit se mettre un petit peu en signal d'alerte de « Ah, là, il y a quelque chose qui n'est pas OK. » Et de se repositionner, est-ce que c'est vraiment la personne ou est-ce que c'est moi qui ne sens pas en sécurité avec moi-même? Puis d'aller travailler cette sécurité interne aussi. Toute la base, elle est là, dans cette sécurité intérieure. Parce que, en fait, ceux qui nous mettront en insécurité, on va juste plus les rencontrer ou on les gardera pas dans notre vie.
On va vite faire le tri, on va vite s'en rendre compte et on va vite te fuir.
Tu l'as déjà remarqué aussi, on fait vite le tri, mais que ce soit dans notre famille, en amitié, avec des collègues ou avec le job, on lâche vite des personnes qu'on se rend compte qu'ils nous mettent en insécurité. Et même quand nous, on se sent bien, ils essayent toujours de nous pousser vers le bas, on va dire. Oui. Et en fait, c'est des choses qu'au bout d'un moment, on n'accepte plus.
Ben ça, moi, j'en parle tout le temps. Enfin, pour moi, tu sais, pour reprendre vraiment sa vie en main après un burn-out, il est crucial d'avoir un environnement positif, motivant. Et comme je dis, c'est pas parce que l'environnement est positif que on viendra pas te dire arrête de faire ci, arrête de faire ça, ou tu fais mal les choses. Donc, on peut très bien avoir quelqu'un dans notre vie qui a beaucoup de critiques constructives pour nous permettre d'avancer, mais qui reste positif, qui reste motivant, qui reste encourageant, qui reste bénéfique. Et dès qu'on capte qu'il y a des zones d'ombre, des personnes qui sont plutôt démoralisantes, qui vont dédramatiser nos émotions, ou qui vont nous empêcher vraiment de nous mettre des bâtons dans les roues pour avancer, ben ces gens-là, on les met de côté. D'ailleurs, donc, est-ce qu'on pourrait lister peut-être des red flags pour ces nanas qui vont voilà, qui vont se lancer dans les rencontres, qui veulent se remettre dans le bain. Et pour la plupart, elles ont peut-être passé, je ne sais pas, 4-5 ans sans rien du tout. Donc, j'imagine les codes, ils ont changé pendant ce temps-là. Quels sont les red flags aujourd'hui à surveiller si je commence à dater? Après une période d'épuisement, hein, j'insiste. Hein. C'est-à-dire, je ne suis pas pompée à la je suis plutôt fatiguée, je suis plutôt fragile.
Ça va être facile. C'est, tu sais, c'est des gens qui vont déjà, qui vont toujours être occupés. D'accord. C'est ces gens qui ils t'écrivent, mais ils sont occupés, ou ils t'annulent à la dernière minute, ou ils te promettent des choses, bientôt, 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 je te proposerai quelque chose, et ils ne proposent jamais rien. Mmh. Je dis toujours, on ne veut pas des correspondants.
Je ne veux pas d'une relation épistolaire.
Voilà, on ne veut pas de relation épistolaire. On n'a pas besoin de ça, on a besoin de vrais, de contacts physiques, surtout encore plus après un épuisement, après un burn-out, on veut voir la personne, on veut avoir de l'oxytocine, tu sais, de la dopamine, des bonnes émotions, des bonnes hormones pour nous donner de l'énergie plutôt que d'être là dans ces messages qui peuvent être aussi, c'est là où il faut faire attention, les messages ça peut nous porter à confusion parce que on écrit, on se réjouit, tu sais, ah, il va me proposer quelque chose ou je vais le voir bientôt, et en fait il se passe jamais rien, et c'est de la fausse joie, on va dire, parce que finalement on voit jamais la personne concrètement et on n'apprend pas à le connaître. Donc ces personnes là qui reportent un petit peu tout, celui qui te dit d'entrée, tu sais, moi je veux rien de sérieux, ça, c'est quelque chose c'est quelqu'un qui manque de confiance, hein, qui veut te prévenir pour ne pas qu'après tu lui reproches qu'il a décidé que finalement il voulait pas continuer avec toi. Tu vois, là, ça fait tout de suite de dire, mais tu sais, moi je sais pas non plus si je veux quelque chose de sérieux avec toi. Peut-être on va déjà se voir une ou deux fois et on verra.
Après, on verra.
Là, c'est les personnes qui parlent de leur ex, les personnes qui disent je viens divorcer, c'est compliqué. Ben, du moment qu'ils ont un divorce compliqué, c'est qu'eux-mêmes étaient déjà compliqués et que c'est pas la faute de leur ex, mais c'était quand même une co-création. Quand on a traversé les burn-out, c'est que on va se remettre encore plus en question que la moyenne des gens et on va se mettre beaucoup dans l'attente. Ah, mais peut-être c'est moi le problème.
Oui.
Donc, comme il y a une forme de honte d'avoir traversé un burn-out ou d'être en épuisement, bah, on va vouloir encore plus prouver à l'autre qu'on vaut le coup. Donc, on va avoir tendance souvent à attendre. À attendre sur l'autre qui se décide, à attendre qui voit qu'on est quelqu'un de bien, à attendre qu'il nous mette en sécurité. Alors que c'est simplement nous qui devons toujours, toujours, toujours nous remettre en sécurité émotionnelle et se dire, est-ce que à moi ça me convient ? Toujours, vraiment, ça c'est la phrase, c'est est-ce que à moi ça me convient ?
Tu sais, l'histoire de « vaut mieux être seul que mal accompagné ». Ben, c'est pas si évident, c'est pas si évident parce que tout dépend de ton contexte, tout dépend de ta confiance en toi, tout dépend de ce que tu es dans ta vie. Et pour certaines, ben, c'est pas encore ça. L'expression ne leur convient pas, en tout cas elle n'est pas aussi évidente à mettre en place. Je sais pas ce que toi tu as un conseil à leur partager.
C'est tellement bercé par les conditionnements de la société, par nos loyautés familiales, donc le couple de nos parents... et on n'a pas encore vécu de relation qui nous va à 100%, que en fait c'est normal, on ne sait pas à quoi ça ressemble. Donc de se demander au final qu'est-ce que je veux, quels sont mes désirs, et tu vois, ça va peut-être être, moi j'ai envie d'avoir quelqu'un qui peut voyager facilement, j'ai envie d'avoir quelqu'un qui veut des enfants maintenant, pas dans 10 ans.
Oui.
J'ai envie d'avoir quelqu'un qui habite dans le même pays que moi. J'ai envie d'avoir quelqu'un qui est prêt à s'engager tout de suite. J'ai envie d'avoir quelqu'un qui fait le même sport que moi. Tu vois, des petites choses vraiment toutes bêtes, de lister ça. Ensuite, de lister nos non négociables. Tu vois, comme par exemple, moi, c'était « je veux pas un homme avec des enfants ».
Oui.
Même s'ils sont ados, même si ils ont 25 ans, je voulais pas ça. Je voulais pas non plus d'un homme qui avait un sport passion, qui fait que tous les week-ends on ferait que son sport. Ou je voulais pas non plus quelqu'un qui faisait de la moto parce que j'aime pas ça et j'avais pas envie d'aller me faire des malades en moto. Mais tu vois, c'est des choses toutes bêtes qui, au final, peuvent péjorer la relation et faire qu'on va s'adapter au conte de fées de l'autre. Et ensuite, c'est une attirance mutuelle. Et tu vois, une vraie attirance, de jauger le flash, ça me convient pas forcément, parce que justement ce qu'on disait avant, tu sais, les émotions sont hautes et c'est passionnel, et notre intelligence elle est complètement basse, et notre logique aussi. Donc on veut cette attirance qui est saine, c'est oui, j'aime vraiment profondément cette personne, ou je suis vraiment bien avec cette personne. Mais ce n'est pas viscéral au point que quand je la vois pas, je suis pas bien, je suis en insécurité. Et surtout, on veut que ce soit mutuel. Tu vois, si on a en face quelqu'un qui montre pas des signes qu'il est aussi attiré par nous, mais par autre chose que par le sexe, ou nous voir une fois toutes les 3 semaines, ou nous écrire 4 textos et disparaître 2 semaines, bah, c'est que c'est pas la bonne personne. Tu vas moins être en proie à tomber direct dans une relation, comme tu disais, pour éviter de ressentir la frustration ou la solitude.
Donc finalement, on revient toujours à cette rationalité. J'ai ma liste, alors j'ai mes cases à cocher, mais les cases à cocher restent souples, bien évidemment, on n'est pas des robots.
Oui.
Mais en tout cas...
Oui, parce qu'il y a des choses inattendues aussi, tu peux bien sûr te mettre... Il y a des choses... C'est pour ça que j'aimais pas trop les listes, tu sais, de faire 50 points que tu cherches chez un homme. Moi, je trouvais que ça m'enfermait, vu que c'était un petit peu trop compliqué, donc je l'ai un peu simplifié, on va dire. Mais oui, c'est ça. C'est allier l'émotionnel et la logique. Et en fait, c'est comme ça que tu as un amour qui est profond et sincère.
Et bien évidemment, je finirai par faire quand même un gros travail sur soi. Parce que quand tu parles d'insécurité, bah oui, si je veux m'apporter assez de sécurité pour moi-même, bah, j'ai besoin de faire un travail sur moi-même. Si je veux me suffire à moi-même, il faut que je bosse sur moi-même. C'est-à-dire si... on est tout le temps accroché à des relations de couple, c'est quelque part on n'arrive pas à s'en sortir toute seule en fait. Ou alors on a des croyances qui disent que je dois absolument être en couple parce que c'est ça la vie, c'est ça réussir sa vie. Donc ouais, non. Surtout, de toute façon, si vous êtes en épuisement, il est clair et net qu'il faut être accompagné à côté pour bosser sur vous-même. Et ensuite, on met en pratique tes conseils pour éviter de retomber dans des relations qui pourraient très bien nous renvoyer vers le burn-out d'ailleurs. On peut très bien faire des épuisements à cause d'un couple dysfonctionnel. Pour revenir du coup au début, donc voilà, aujourd'hui je vais pas très bien, ça fait très longtemps que je ne sors plus, que je ne fais rien parce que je me trouve pas forcément intéressante, parce que déjà j'ai peut-être la flemme. Comme je te disais, il y a une sorte de repli sur soi quand on est en épuisement. Donc il faut se remettre dans... Il faut se remettre dans la société, en fait. Il faut se remettre dans les sorties, dans les loisirs, dans les rencontres. Par quoi est-ce qu'on pourrait commencer pour s'ouvrir aux autres ?
Je pense que quand on est en épuisement, c'est vraiment d'allier ça à notre lifestyle. Ça veut dire que pas en faire plus, peut-être même pas aller sur les applications de rencontres, parce que ça peut être très stressant, les applications de rencontres, mais... Dès que tu sors, commencer à t'ouvrir au monde, et ça veut dire tout simplement sourire déjà aux gens. Avant de sourire aux hommes, sourire déjà aux vieilles dames, aux vieux monsieur, aux enfants, et après petit à petit aux hommes, et vraiment t'ouvrir pour voir que ça donne de l'énergie, parce que tu reçois un sourire en retour, et petit à petit tu t'ouvres aux hommes, et petit à petit tu peux dire bonjour aux gens, et petit à petit tu vas avoir des discussions, et tu vas voir que ces discussions, elles vont te donner de l'énergie. Et moi, je commencerai par ça. Si je sors de l'épuisement, vraiment, quand je vais faire mes courses, si je vais à la salle de sport, ou si je fais une activité quelconque, ou si tu vas à la bibliothèque, ou peu importe, c'est déjà ça, c'est déjà de recommencer gentiment à sourire avec tout simplement un sourire. Et en fait, les codes, ils n'ont pas tellement changé. C'est plus qu'on a perdu le lien entre mes femmes au cours des années.
Où on a perdu le lien entre l'humain et l'humain, je dirais. Là, c'est vrai
que même entre femmes, on se parle pas, on parle plus en fait. Alors qu'à l'époque, bah, ils se rencontraient, ils allaient au café du coin ou sur un.
Bah, elles papotaient en fait. Elles papotaient en faisant les courses ou en attendant le bus ou un truc du genre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plutôt téléphone, écouteurs et compagnie. Donc peut-être commencer tout doucement à s'ouvrir aux autres avec le sourire.
Il y a une fausse croyance qui est un peu, tu sais, tout noir ou tout blanc, c'est que du moment qu'on va avoir une conversation et qu'on va sentir qu'on n'intéresse pas la personne, on va en déduire, bah voilà, je ne suis pas intéressante. Et en fait, c'est normal. Tu sais, moi j'ai remarqué, quand je dis que voilà, je suis love coach, il y a des gens, ils vont dire c'est génial, mais comment t'en es venue à faire ça, raconte-moi. Ils vont me poser plein de questions et forcément, je vais me sentir hyper intéressante. Mais à côté de ça, le lendemain, il y a quelqu'un à qui je vais dire je suis love coach, il va dire ah ouais, et il va parler de lui. Et il va pas du tout me poser des questions. Donc en fait, c'est d'accepter qu'on va pas du tout être intéressante pour la majorité des gens. Au contraire, mais on va être intéressante justement pour les gens qui nous voient. Donc je pense qu'il y a un deuil à faire de c'est ok de pas être intéressante pour tout le monde.
C'est clair. On peut pas plaire à tout le monde, mais il y a forcément des gens à qui tu vas plaire. C'est une certitude. Mais pour ça,
c'est ces gens-là que tu veux.
Ouais, bah pour ça, ce qu'on disait au tout début, le fait de porter des masques et compagnie, c'est parce que tu vas porter des masques que tu vas attirer les mauvaises personnes. Donc vas-y, sois toi-même, avec tes lacunes, avec tes failles, et tu vas forcément attirer des gens qui vont t'apprécier pour ce que tu es. Et c'est comme tu dis, c'est cela qu'on veut.
Quand on fait des rencontres, on met tout de suite l'homme qu'on rencontre sur un piédestal quand on a un coup de cœur.
Oui.
Et tout de suite, c'est un truc de femme, ça. On va avoir peur de ne pas être choisie et on va se dire, je suis moins bien que lui. Mais parce qu'on a été entraîné, conditionné à penser qu'on est déjà moins bien que les hommes. Et alors encore, quand tu flashes, vu qu'il y a un enjeu, de toute façon, on va se dire, oh là là, il ne va pas me choisir, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez femme fatale, bah, je ne suis pas assez intéressante, je ne suis pas assez intelligente, etc. etc. Et c'est de se dire... et tu l'as dit, hein, c'est à l'intérieur que ça commence, c'est déjà le discours interne, c'est ben, je serai intéressante pour la personne qui me va. Et en fait, ce sera beaucoup plus facile parce
c'est
que
clair.
Je vais pas avoir besoin de prétendre que je connais la politique, que j'ai une culture générale de malade, que je sais faire ceci ou cela. En fait, non, je vais avoir une relation sereine et c'est ça que je veux, tu vois, de se remettre aussi à se dire, mais si je continue de porter mon masque et de faire semblant d'être ce que je suis pas. C'est ça qui va de nouveau me mettre en épuisement.
Oui, c'est clair. Non, c'est clair que c'est énergivore.
Et on fait déjà au job. Donc,
oui.
on est en train de sortir de ça. On ne veut pas le faire dans les relations amoureuses non plus. Ah oui, je veux revenir sur une question. Tu m'as dit comment ne pas s'épuiser aussi quand on fait les rencontres. C'est de vraiment garder sa routine qu'on a établie pendant l'épuisement ou après l'épuisement. Mais de garder ces moments pour nous.
Oui.
Où on se repose. Parce que tu sais, quand on va... avoir un coup de cœur pour quelqu'un, on va vite vouloir le voir tout le temps. C'est normal, hein. C'est aussi une merveilleuse phase des débuts de relation. Moi, j'ai adoré ces moments-là, des débuts de relation, c'est magnifique. Mais on peut vite annuler des moments avec soi-même pour le voir, parce qu'on a peur qu'il ne nous repropose rien derrière. Et ça, c'est vraiment important de se donner une ligne de conduite de « Non, là, ce soir, j'ai prévu de regarder ma série préférée, de me prendre un bain, d'aller faire du sport, de rester tranquille, me reposer, vraiment rester à la maison, rien faire. S'il me propose quelque chose, je fais ça. »
Encore
c'est
une fois...
C'est une forme d'engagement avec soi-même.
Ouais, c'est ça. Encore une fois, ne pas s'oublier finalement. Qu'importe le contexte, ne jamais s'oublier et toujours laisser de la place pour soi dans sa propre vie.
Exactement. Il faut aussi... ce qu'on va faire, c'est tout donner à la personne tout de suite avant même qu'il ait prouvé qu'il était engagé ou qu'il nous donnait quelque chose en retour. Et c'est, y aura un moment où tu sauras simplement que oui, c'est bon, j'ai envie d'aller plus loin avec cette personne et lui aussi, et ce sera juste une évidence. Et là, tu peux lui faire plus de place dans ta vie.
En tout cas, ce fut une belle conversation. Franchement, ça me fait bizarre, tu sais, habituellement. On va parler reconversion, on va parler, je sais pas moi, organisation. Là, c'est chouette pour moi aussi de changer de sujet. Et je suis persuadée que ça va servir à celles qui nous écoutent. Et donc, dis-nous un peu exactement si on aimerait aller plus loin avec toi. Peut-être pour commencer, à qui est-ce que tu t'adresses exactement ? Qui peut venir te contacter pour bosser avec toi ?
Je m'adresse principalement aux femmes célibataires, mais aussi en couple. J'ai quand même énormément de monde qui sont déjà en couple ou qui sont déjà en c'est compliqué, peut-être des débuts de relation. Tout simplement parce que ma méthode s'appelle change ton schéma amoureux, tu vois. C'est pas trouver le bon, mais c'est vraiment changer notre schéma en profondeur pour vivre une relation qu'on désire. J'ai sorti un livre. On peut commander sur Amazon, qui s'appelle aussi Change ton schéma amoureux. J'ai aussi un podcast qui s'appelle Change ton schéma amoureux. Et bien évidemment, un cours en ligne. Donc, en ce moment, je fonctionne avec un cours en ligne.
Bah, de toute façon, je mettrai tous les liens dans le descriptif de l'épisode. Vous retrouverez Instagram, le site internet et le lien vers le livre. Et puis voilà, pour toutes celles qui voudraient se remettre dans le bain des rencontres et pourquoi pas, ajouter cette... petite pierre à son édifice, hein. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, parce qu'encore une fois, ça fait partie des choses qui peuvent nous rendre heureuses. Faut pas non plus trop se focaliser dessus, c'est pas non plus une fatalité quand ça n'est pas le cas, c'est pas forcément comme ça qu'on réussit sa vie, hein. C'est pas le fait d'être en couple, mais comme je dis, nous sommes des animaux sociaux, et donc on a besoin d'aimer et d'être aimé, et pour celles en tout cas qui sont à la recherche d'une relation de couple, parce que bah voilà, elles en veulent une. T'as pas de justifier.
Voilà, c'est juste ce que tu dis, hein. Beaucoup, souvent on doit se justifier qu'on veut être en couple en fait, hein.
Bah, ouais.
Des fois c'est mal perçu, hein, de nos jours, c'est
rigolo, oui. Non, de toute façon, en tout cas, faut arrêter de se justifier, faites vos choix, tant que vous êtes aligné avec vos choix, c'est le plus important.
Voilà.
Mais oui,
exact.
Et c'est comme ça. Et si vous voulez vous remettre dans les dates et compagnie, eh ben je vous renvoie vers Fanny qui peut vous donner les tips pour y aller tout doucement, sans violence. Étant donné que vous êtes déjà fatigué, on ne va pas en rajouter. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé, pour le temps que tu nous as consacré. Je ne sais pas si tu veux finir peut-être avec un conseil pour toutes celles qui sont en épuisement et qui écoutent le podcast.
Je dirais que la chose principale toujours à faire attention, c'est son discours interne. Être bienveillante avec soi-même. Pas se dire qu'on doit changer toutes nos pensées négatives sur nous-mêmes et changer complètement notre discours interne, parce que ça rajoute encore de la charge mentale et de la culpabilité, mais justement de pas te croire à toutes les choses négatives que notre cerveau nous dit sur nous.
Ouais.
Et ça, c'est déjà une magnifique base.
En tout cas, merci plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis, me mettre 5 étoiles sur la plateforme de Apple Podcast. Et pour échanger, me solliciter, je te donne rendez-vous sur Telegram. Sinon, on se capte la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, booste ton feeling good.